La conso des familles. Cette chronique vous est proposée par Famille Rurale. Pour la défense de tous les consommateurs. Animée par Chantal. La conso des familles, c'est tout de suite.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable.
Audi consommatrice, Audi consommateur, bonjour. En introduction, vous venez d'écouter Grand Corps Malade, j'ai pas les mots pour la Toussaint n'étant pas loin, pour aborder aujourd'hui un sujet pas facile, mais néanmoins indispensable et encore tabou. Concernant les prestations funéraires, et nous allons discuter, voir avant et après décès ce qu'il en est. C'est un sujet aussi que porte Famille Rurale, et il faut absolument en parler à sa famille, à ses amis, etc., pour être moins démunis, comme vient le dire Grand Corps Malade, le jour où il y a un décès autour de soi.
Et c'est pas un gros mot.
Et c'est pas un gros mot, absolument. C'est tellement facile d'en parler quand on est en bonne santé ou même quand on est malade. Donc je vous propose d'aborder l'avant-décès et tout ce que l'on peut faire, dire, écrire, enfin avant. Alors, tout d'abord, sur mon espace santé, vous pouvez déterminer vos directives anticipées de fin de vie. Alors ça risque de changer si un jour la loi passe, mais ça risque d'être encore un long combat, cette loi. Mais bon, vous pouvez écrire et n'importe quel professionnel de santé, ça il n'y a besoin de personne, n'importe quel professionnel de santé pourra aller voir sur mon espace santé et voir ce que vous avez voulu, souhaité faire, si vous n'êtes plus en capacité donc de pouvoir le dire. Autre chose aussi, les volontés funéraires. Donc là, il faut, si possible, informer votre entourage si vous souhaitez une crémation ou une inhumation, des obsèques religieuses ou pas. Alors ça peut inclure aussi différentes chansons ou différentes personnes que vous souhaitez voir, pas voir. Enfin, vous pouvez tout déterminer, peut-être tout écrire aussi, mais au moins informer votre entourage proche de ses dernières volontés. Parce que après décès, eh bien, ces derniers, ou les personnes chargées des obsèques, seront parfois très démunies, ne sachant pas quoi faire, quoi dire. Enfin, voilà, ça peut être finalement très compliqué pour elles. Donc autant le dire avant. Après, il y a aussi, et il y a peu de personnes finalement qui font le nécessaire, c'est l'organisation de la transmission de son patrimoine, qu'il soit important ou pas. Ça dépend beaucoup de sa situation de famille. Donc non, je ne vais pas jouer au notaire, je n'en ai pas la capacité, ni les... je ne sais pas faire ça, mais il y a quand même des réflexes à avoir et à connaître. Lorsque l'on est propriétaire d'un bien immobilier, quel qu'il soit, donc en règle générale sa résidence principale, mais ce n'est pas une obligation, lorsqu'il y a un décès, il y aura d'office un règlement de la succession notariée. Dès lors qu'il y a un bien immobilier, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, il y aura un notaire qui rentrera en jeu. Alors pourquoi ne pas aller le voir et discuter d'un certain nombre de choses avec lui ? Lorsqu'il n'y a pas de bien immobilier, mais simplement des meubles, une voiture, un compte de chèque, un livret, enfin voilà, des autres choses, il peut y avoir un certificat de notoriété au niveau de la famille et de la composition de la famille restante qui est présente. Alors, tout ça est très différent selon que l'on soit célibataire, pacsé, marié, veuf, enfin voilà, il faut vraiment aller voir un notaire, sachant que, sauf particularité vraiment, mais lorsque l'on va consulter un notaire, ce dernier ne vous fera pas payer la consultation, enfin c'est pas une consultation médicale, mais la consultation et l'entretien que vous aurez avec lui, c'est en principe gratuit, à moins d'avoir une succession très 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 complexe pour laquelle cela va nécessiter voilà, qu'il réfléchisse, qu'il consulte, qu'il regarde les textes, etc. Mais dans la majorité des cas, je veux dire, le notaire vous recevra, vous donnera son avis, vous demandera ce que vous voulez faire et ensuite rédigera. Donc là, j'y viens. C'est la solution la plus simple, un testament. Alors, contrairement à une idée reçue, un testament notarié coûte aujourd'hui 136 euros, une bonne fois pour toutes, hein, c'est pas chaque année, sauf s'il est vraiment très très compliqué, mais 136 euros, sincèrement, c'est rien pour assurer une paix familiale durable en fonction de la famille, des enfants, etc., et tout régler avant son décès. Donc dans les testaments, il y a trois formes. Donc l'holographe, alors l'holographe, comme l'indique son nom, on écrit ce que l'on souhaite et on confie, ou pas, d'ailleurs, on peut le laisser dans ses affaires, bien en vue, ou pas. Et là, ça complique quand même les choses, donc chez soi. Alors, ce testament holographe, il peut être détruit, si la personne qui le trouve est malveillante, il peut être tout simplement perdu, ou oublié s'il a été trop, trop bien rangé. Une fois que la succession est réglée, on ne peut pas revenir dessus. Donc, il présente quand même énormément d'inconvénients. Je répète, le testament notarié, lui, est beaucoup plus sécuritaire. Donc, sécuritaire à plusieurs titres. La sécurité juridique, parce qu'il aura été rédigé, voilà, dans des formes que le notaire aura établies et qu'il connaît par cœur. C'est une preuve irréfutable. Il y a une conservation aussi à titre, qui est tout à fait professionnelle. C'est-à-dire que, dès lors qu'un notaire rédige un testament en France, sachant que vous pouvez habiter à Lille et décéder à Marseille, eh bien, n'importe quel notaire en France pourra retrouver votre testament via le fichier central des dispositions de dernière volonté, le FCDDV, voilà, un petit peu long, mais d'office, il est enregistré dans ce fichier, et si c'est un autre notaire qui règle la succession, eh bien, il demandera à son confrère de lui transmettre, voilà, ça c'est vraiment pour 136 euros, ça faut vraiment la peine de faire le nécessaire. Et le dernier, le plus compliqué, le testament mystique. Alors, il est transmis clos, cacheté, scellé à un notaire qui le conserve. Il n'est ouvert qu'après décès, personne ne sait ce qu'il y a dedans et il peut comporter des risques d'erreurs juridiques, sachant que le code civil aura la prérogative par rapport à ce que la personne décédée aura pu dire, écrire ou décider selon ses dernières volontés, dès lors que c'est non légal, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, celui-ci est peut-être pas souvent écrit. Voilà, donc ça c'est un point très très important d'organiser la transmission de son patrimoine avant son décès. Une fois que c'est fait, on l'oublie et puis on n'en parle plus. Je vous rappelle aussi que sur les contrats d'assurance vie, sur les contrats de prévoyance lorsqu'on est encore salarié, il y a des personnes à désigner en cas de décès et il y a certains termes qu'il faut bien préciser. Voilà, donc vous voyez un professionnel, soit un banquier, soit la direction des ressources humaines ou la société d'assurance qui pourra vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, on peut aussi anticiper le paiement de ses obsèques. Donc, deux grands types de contrats. Le contrat en capital, alors souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un établissement bancaire. Donc, c'est tout simplement constituer un montant. En général, vous êtes prélevé tous les trimestres ou tous les mois. Donc, constituer un montant qui sera versé aux proches qui sont à désigner, évidemment, dans le contrat qui aura été rédigé. Alors, ce contrat présente quand même un petit peu de risque parce que vous pouvez plus payer, en fait, payer à vie et arriver à une somme, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a des délais de carence, il y a des cotisations qui sont variables selon son âge. C'est rare qu'on le souscrive à 30 ans, hein, on le souscrit plutôt quand on est un peu plus âgé. Bon, ça peut... voilà, moi je suis un petit peu réticente sur ce type de contrat, mais il existe. Il y a quand même aussi un intérêt, c'est que les bénéficiaires de ce type de contrat, donc auxquels seront versées la somme qui aura été constituée sous forme de capital pour gérer les obsèques et ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc ces bénéficiaires sont tous enregistrés auprès de l'AGIRA, qui est un groupement voilà, où toutes les compagnies d'assurance abondent pour pouvoir s'y retrouver. Parce qu'on peut aussi souscrire ce contrat et jamais informer les bénéficiaires. Donc ça vaut le coup d'interroger l'AGIRA, hein, on le fait sur Internet, et ça va quand même assez vite pour savoir où a été souscrit le contrat. C'est un peu comme un testament, hein, on peut habiter, je vais changer, donc à Brest et décédé à Strasbourg, et on peut pas forcément le savoir. Et l'autre contrat, plus simple, c'est tout simplement d'aller voir un opérateur funéraire, de régler la somme par anticipation de ses obsèques, de décider de toutes les prestations, d'en informer des membres de sa famille, hein, bien sûr, et puis comme ça, au moins, voilà, c'est réglé, on aura ce que l'on aura choisi de son vivant, et les choses seront trois fois plus simples. Nous allons faire une petite pause en écoutant Thomas Fersen, Croc.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler mon mieux, digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux. Moi je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure à chaque enterrement. Comme un côté du cimetière est inhabité, j'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, entre deux services, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je bine et je bêche, quelle heureuse surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fer blanc, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeur, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon ventre de femme, c'est mon ventre qui glou-glou. Je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre, on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel. Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La faim me monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je ne suis pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes pompiettes. À mon croque, madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux.
Nous venons de voir l'avant, maintenant nous allons voir l'après. Depuis le 1er juillet 2025, les devis des opérateurs funéraires sont tous standardisés et absolument identiques pour tous, ce qui permet une comparaison plus aisée. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile lors d'un décès de demander 2 ou 3 devis, mais il faut pas hésiter quand même à le faire. Car sont bien maintenant affichées très clairement les prestations obligatoires, qui ne sont finalement pas si nombreuses que ça, et les prestations non obligatoires, en 9 rubriques, 2 colonnes. Donc n'hésitez pas au moins à aller voir 2 opérateurs funéraires pour leur demander leur prix.
C'est que tu vas me dire que les poignées en or, c'était pas obligatoire ?
Ah bah non, c'est pas obligatoire. Ah non, finalement, il y a très peu de prestations obligatoires, mais... Lié aussi parfois à l'effet de surprise, quand le décès a été rapide, à un effet de surprise, à la peine des gens, les opérateurs funéraires proposent en quelque sorte un paquet cadeau, entre guillemets, de tout, sans vraiment voir l'obligatoire ou pas. Et les prestations obligatoires, il n'y en a pas tant que ça, donc je ne vais pas les détailler. Pour ne pas continuer de plomber l'ambiance, quand même.
Ah non, moi, je trouve ça très, très intéressant.
Voilà. Alors, rappelez que le coût moyen d'obsèques, crémation ou inhumation, il est grosso modo de l'ordre de 4 000 €. Or, le coût de la concession, on va y revenir dans un instant, et les frais de marbrerie, ça, c'est de l'embellissement, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui, à hauteur de 5 910 €, là comprenant concession et marbrerie, sachez qu'il est possible, et les pompes funèbres, ça, sont parfaitement bien au point là-dessus, de prélever, si cette somme figure sur le compte du défunt, de prélever donc directement sur le compte du défunt, par exception, donc cette somme maximum de 5 910 € fixée par la loi, donc pour régler les obsèques. S'il n'y a pas suffisamment de fonds ou que les fonds sont bloqués, enfin bon, pour tout un tas de raisons, le paiement appartient aux proches, à eux de se faire éventuellement rembourser ensuite au niveau de la succession. En général, c'est ce qui se passe, mais il y a pas de crédit en matière de pompes funèbres, elles sont payées au moment donc des obsèques. Vous pouvez obtenir un certain nombre d'aides. Alors, la CARSAT ou la MSA, si vous bénéficiez déjà d'une allocation veuvage, un capital décès de la Caisse primaire d'assurance maladie uniquement si vous êtes salarié, allocataire de France Travail ou professionnel indépendant. Donc, si vous travaillez, il faut la demander dans un délai assez court, mais un capital décès donc, que la Sécurité sociale propose. Si la personne décédée a moins de 25 ans, la caisse d'allocation familiale intervient également pour un capital décès. Et enfin, interroger les mutuelles. Alors, ça se fait évidemment après les obsèques, mais je rappelle à nouveau dans un délai relativement court, c'est-à-dire 2-3 mois grand maximum. Hein, il ne faut pas traîner, mais voilà, il faut pas hésiter à le faire. Alors, que se passe-t-il en cas de conflit familial ? Qui règle les obsèques ? S'il n'y a pas d'entente, il faut savoir que le Code civil prévoit, même pour des obsèques, une obligation alimentaire des enfants vis-à-vis des parents. Sauf si le parent qui est enterré a eu un manquement grave, alors en règle générale condamné par la justice, ou lorsqu'il y a une absence de filiation légale. Mais sinon, l'obligation alimentaire perdure même lors d'un décès. Donc, je disais tout à l'heure que l'on peut récupérer sur la succession les frais d'obsèques, hein, bien sûr, il suffit de fournir la facture au notaire. Voilà, ça c'est un point général pour ce que les opérateurs funéraires donc, et tout ce qui se passe autour de cela. Maintenant, voyons un petit peu les concessions. Alors, le prix d'une concession dépend des communes. Ce sont les conseils municipaux qui décident des prix des concessions. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que je vais vous donner vraiment une grande fourchette de prix. Donc les concessions, elles sont soit individuelles, soit collective, c'est-à-dire qu'on peut acheter un espace, mais en cas de concession collective, il faut dans le contrat nommer les personnes qui pourront être enterrées dans cette concession, ou une concession familiale qui est plus classique. Bien entendu, on peut l'acheter de son vivant. Donc, ce sont des espaces de 2 mètres carrés. Et les prix... Alors, je me suis renseignée auprès d'une commune, donc je vais vous le donner vraiment largement ce qui se passe en Brenne. Donc, il y a 4 possibilités. Concession de 5 à 15 ans. Alors, elles sont relativement peu utilisées. Donc, pour une inhumation, 30 ans, il faut compter entre 400 et 500 euros. Donc, pour 30 ans, bien sûr. 50 ans, entre 700 et 900 euros. Et il y a de plus en plus, en cas de crémation, je recommence. 4 possibilités, 5 à 15 ans, 30 ans, 4 à 500 euros, 50 ans, 700 à 900 euros, et les concessions à perpétuité qui deviennent de plus en plus compliquées à obtenir. Et là, chaque commune fait un peu ce qu'elle veut, comme elle veut, si elle accepte de vous concéder donc une concession à perpétuité.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une location avec un voisinage très calme.
Ah bah ça, oui, voyez, oui, ça, il ne se passera pas grand-chose tout autour. Quoique, des fois, il y a quand même un petit peu de bruit autour, mais en général, oui, c'est plutôt calme. Alors, de plus en plus, on voit donc dans les cimetières des columbariums avec des cavurnes. Le prix est à peu près le même, finalement, pour 30 ans, une case, donc le fameux cavurne. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit un ou une, peut-être une, sûrement.
C'est les emplacements pour mettre les urnes de crémation.
Voilà, les urnes de crémation coûtent pour 30 ans entre 400 et 500 euros. Si les cendres sont dispersées dans un jardin du souvenir, il n'y a pas de prix, en principe. Ça, c'est gratuit, à moins de mettre une plaque sur un mur qui est prévu pour une plaque en disant que monsieur ou madame X les cendres ont été dispersées ici. Alors, il m'a encore été dit ce matin que dans le jardin du souvenir, on ne peut mettre aucune fleur, rien du tout, donc ça peut y avoir juste la plaque qui rappelle l'existence de la personne. Alors, si l'on veut disperser des cendres sur une propriété privée, avec les accords nécessaires, c'est possible, mais on n'y pense pas toujours pour l'après. Lorsque, si par exemple on veut les mettre au fond d'un jardin, pas de souci. Sauf que le simple fait de disperser des cendres dans une propriété privée nécessite par la suite une servitude. C'est-à-dire que si un jour, et ça sera toujours le cas, cette maison et ce jardin seront revendus, les membres de la famille qui souhaitent se recueillir devront toujours pouvoir le faire.
Ah ouais, d'accord.
Et on n'y pense pas toujours à ça.
Moi, je me demandais pourquoi, justement, il y avait des interdictions sur tout ça, au-delà du fait que c'est une personne... servitude.
Parce qu'on doit laisser la famille pouvoir se recueillir, ne serait-ce que quelques minutes, mais c'est une obligation, ce qui semble logique.
Oui, du coup.
Après tout. Après, nous savons aussi que des cendres sont dispersées sans vraiment d'autorisation, mais bon, c'est compliqué. Moi, je posais la question, par exemple, en disant si des cendres veulent la disperser sur un étang, eh ben, ça nécessite après une servitude. Donc, c'est un peu compliqué quand même, et on n'y pense pas.
Et la rivière, et la mer.
Eh oui, la mer encore, ça va. Alors, les concessions peuvent être renouvelées par les membres de la famille, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, on repaye à nouveau, par exemple, 400 à 500 euros. Alors, la mairie, soit on y pense soi-même, pas forcément facile au bout de 30 ans, soit la mairie essaye de recontacter aux adresses qu'elle avait 30 ans avant. Alors, un petit peu compliqué aussi parce qu'on peut être amené à déménager. Donc, les membres de la famille, donc souvent les enfants, les neveux, les nièces. Et si la mairie ne retrouve plus personne, sachant qu'elle ne va pas non plus faire des recherches jusqu'à plus soif, elle écrit, si le courrier revient, n'habite pas l'adresse indiquée. Elle va laisser 2 ans pour que la famille puisse éventuellement encore s'en souvenir. Elle va poser devant le monument funéraire une plaque
Disons que la concession est arrivée donc au terme, 2 ans, alors 2-3 ans, enfin on n'est pas à une année près, et ensuite la mairie reprend la concession, c'est-à-dire qu'elle va détruire la marbrerie, elle va faire une réduction de corps qu'elle va déposer avec tout le respect qui est dû, donc dans un ossuaire commun, et si la famille se réveille au bout de 40 ans, bah il y aura plus rien et la famille donc la mairie pourra remettre relouer en quelque sorte la concession à une autre pour une autre famille. Alors après, à vous de choisir ce que vous souhaitez, mais je répète, c'est important d'informer son entourage, ses amis, sa famille proche, son conjoint, de ce que l'on souhaite faire, devenir après, en attendant que de nouvelles possibilités
voient le jour,
venant des États-Unis, venant d'autres pays, ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'un jour, un jour ça viendra.
On viendra à se faire envoyer dans l'espace.
Ah oui, on n'en est pas là encore.
Bientôt.
On n'en est pas là. Merci de votre écoute, au mois prochain, et je vous invite, chanson de circonstance, à écouter Puisque tu pars, Jean-Jacques Goldman.
Puisque tu pars dans ton esprit.
C'était l'émission La Conso des familles.